Ce matin, Marie est entourée de nombreux de ses cousins et de ses cousines. Eh bien, ce matin, c'est d'un autre cousin que j'aimerais vous parler. Vous savez que la Bible raconte quantité d'histoires de famille. Si l'on fouille un peu, on trouve pas mal de récits de naissances assez extraordinaires. Bon, il est vrai que chaque naissance est unique. Même si toutes les naissances ne font pas l'objet de récits millénaires, elles sont uniques. Autrefois, quand quelqu'un avait un destin hors du commun, on aimait bien raconter les extraordinaires circonstances de sa venue au monde. Alors, connaissez-vous peut-être l'histoire du cousin de Jésus, ou plutôt de son petit cousin, car en fait c'était leur mère qui était cousine. Élisabeth, la cousine de Marie, avait plusieurs années de plus qu'elle. Elle était mariée à Zacharie. Tous deux formaient un couple harmonieux. Mais leur grand malheur résidait dans le fait qu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Oh, ils avaient désormais atteint l'âge auquel il n'était plus vraiment envisageable de devenir parents. Ils s'étaient fait une raison. Même si quelque part demeurait en eux le drame de n'avoir pas pu transmettre la vie. Mais un jour, Zacharie se trouve dans le temple et il a une vision. Le récit biblique nous raconte qu'un ange lui est apparu et qu'il s'est adressé en lui annonçant que lui et Élisabeth auraient un fils et qu'à ce fils, il donnerait le prénom de Jean. Peut-être était-ce la surprise, ou alors la crainte de devoir une fois de plus faire face à la désillusion d'une fausse joie. Toujours est-il que la réaction de Zacharie n'a pas été tout à fait celle attendue. Zacharie a réagi avec scepticisme. Il n'a pas cru ce que l'ange venait lui annoncer. Et à cet instant même, Zacharie est devenu muet. Il a perdu l'usage de la parole. Et quelques mois plus tard, voilà ce qui arriva.
La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 57 à 66. Le moment arriva où Élisabeth devait avoir son enfant, et elle mit au monde un fils. Les voisins d'Élisabeth et les membres de sa parenté apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté, et ils s'en réjouissaient avec elle. Quand l'enfant eut une semaine, ils vinrent pour le circoncire. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent, « Mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. » Ils interrogèrent alors par geste le père pour savoir comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie demanda une tablette à écrire et il y écrivit ces mots. Jean est son nom. Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Alors, tous les voisins furent saisis de crainte. Et dans toute la région montagneuse de Judée, l'on se racontait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mettaient à y réfléchir et se demandaient que deviendra donc ce petit enfant? La puissance du Seigneur était en effet réellement avec lui. Gloire à toi, ô Christ.
Thank you.
mois se sont écoulés entre le jour où l'ange est apparu à Zacharie et ce matin-là, au temple, où le rite religieux est célébré et où l'enfant reçoit son prénom. 9 mois d'un silence total pour Zacharie et aussi pour le couple qu'il forme avec Élisabeth. Et pourtant, il devait en avoir des choses à dire pendant ces 9 mois-là. La surprise de la grossesse, le récit de la promesse, le souhait, l'espérance qui tout d'un coup renaît, et tout ce que de futurs parents ont à échanger à propos du changement de vie qui se prépare pour eux. Mais c'est le silence qui marque ce temps. La promesse a coupé toute parole, mais elle n'a pas coupé toute communication. Car il ne faut aucun doute qu'Élisabeth est au courant de tout. Zacharie a donc trouvé le moyen, autrement que par la parole, de lui raconter l'apparition, de lui raconter cette promesse et de lui raconter qu'il devait donner le prénom de Jean. On le comprend au moment même où il, on ne sait pas dans l'histoire qui sont ils, certainement les prêtres du temple qui procèdent à ce rite de naissance, mais ils veulent donner un prénom à l'enfant, ils veulent donner le prénom du Père. Et tout de suite, Élisabeth s'oppose et affirme non, il s'appellera Jean. Chacune d'entre nous portons un prénom et nous avons un nom de famille. Notre nom de famille nous ancre dans notre filiation. Nous portons le nom de notre père, parfois le nom de notre mère. Nous portons le nom de nos grands-parents, de nos ancêtres. Pour certaines familles où c'est bien documenté, nous savons même plusieurs générations en avant le nom de qui nous portons aussi. Et notre nom de famille nous dit d'où on vient, nous inscrit dans une lignée, nous situe aussi, nous inscrit dans une histoire. Ah, un Mongolin de Vernier, bien sûr, on situe tout de suite. Notre prénom, lui, il nous distingue. Chaque membre d'une famille porte un autre prénom. Parmi tous les Dubois du coin, eh bien, toi, tu es Dominique, et tu es le seul Dominique Dubois. Il n'y en a pas d'autre. Chaque individu est unique. Et c'est cet ensemble, prénom et nom de famille, qui assoit notre personne, à la fois dans son individualité, mais aussi dans la collectivité, dans son unicité, et en tant que membre d'un tout plus grand que soi-même. C'est ainsi en tout cas que fonctionne notre façon occidentale de nommer depuis pas mal de générations. Mais il existe plein d'autres manières de fonctionner avec les noms. Dans le monde actuel, certains pays ne fonctionnent pas du tout comme ça, certaines cultures ne fonctionnent pas comme ça, et dans l'Antiquité, même ici, ça ne fonctionnait pas de la même manière. Du temps de Jésus, c'était aussi différent. Il y avait beaucoup moins de prénoms différents. En gros, on portait un peu tous et toutes les mêmes prénoms. On portait le même prénom de son voisin et de celui qui était de maison plus loin. Tout le monde s'appelait un peu Myriam, un peu Jean, un peu Jésus finalement. Et on ne portait pas de nom de famille. Alors pour situer quelqu'un, eh bien, on trouvait autrement pour le faire. On le désignait soit par le village d'où il venait, soit par le nom de son père. Jésus, mais pas n'importe quel Jésus, Jésus de Nazareth. Ou alors Jacques, pas n'importe quel Jacques, fils d'Alphée. Au sein d'une famille, il est donc de coutume d'attribuer un prénom qui existe déjà, pour aussi un tout petit peu ancrer dans une lignée. On ne cherche pas l'originalité, on ne cherche pas à donner un prénom nouveau, on cherche à dire, bien, toi tu viens un peu de là, tu portes le prénom de ton grand-père ou de ta grand-mère. C'est comme ça qu'on t'ancre dans ton ascendance. Alors si on écoute bien le récit de ce matin, il est quand même un tout petit peu étonnant qu'on ait voulu donner à ce petit enfant le prénom de Zacharie, parce que c'était son père directement, et qu'on avait plutôt l'habitude de porter le nom du grand-père. Ça altère un petit peu d'une génération à l'autre, parce que là, ça donnait Zacharie, fils de Zacharie. Et si ça se reproduit, finalement, tout le monde est Zacharie, fils de Zacharie. Alors peut-être, est-ce parce que M. Zacharie était déjà très âgé, qu'il y avait l'idée qu'il était déjà un petit peu l'aïeul, et que cet enfant n'avait déjà peut-être plus de grand-père, d'ascendant plus loin. Mais en tout cas, ce qui aurait été très bizarre, très déconcertant, c'est de lui donner un prénom qui n'existait pas dans la famille. Et l'opposition d'Élisabeth fait tout de suite réagir. Personne ne porte ce prénom dans ta famille. D'où vient ce Jean? Plus de ça, je n'ai pas tout à fait sûr que c'était à la femme de donner le prénom, qu'il y avait peut-être aussi quelque chose. En tout cas, on est d'accord de donner le prénom si le mari est aussi d'accord. La femme, ça ne suffit pas tout à fait. Mais c'est là que se joue l'instant décisif de notre histoire, c'est celui de l'accomplissement de la promesse. On vérifie que c'est bien votre prénom qui va être donné. Et c'est à l'instant même où Zacharie inscrit sur la tablette, c'est rigolo parce que la tablette aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qu'on imaginait à l'époque, et donc c'était une planche de bois sur laquelle on mettait un petit peu de cire qu'on pouvait graver, et ça servait pour toutes les inscriptions qu'on n'avait pas besoin de conserver. Donc il y avait quelque chose d'éphémère aussi dans l'écriture sur la tablette, quelque chose d'un petit clin d'œil. Mais en tout cas, Zacharie écrit son prénom. Et Jean. Et c'est à cet instant-là que la promesse s'accomplit, que la vision de l'ange, plusieurs mois à l'avance, trouve son terme, et c'est à cet instant-là que la parole de Zacharie est délivrée. Il trouve à nouveau la moyen de s'exprimer, et donc il retrouve la parole. Le don du prénom fait partie de cette promesse. Et c'est le moment où s'ouvre à nouveau une vie épanouie pour Zacharie, pour Élisabeth et pour leur enfant. Il s'appellera Jean. Le prénom Jean signifie « Dieu fait grâce ». Il portera le prénom « Dieu fait grâce ». Et à chaque jour de son existence, en portant ce prénom, ce Jean sera le témoignage vivant que Dieu a fait grâce à Élisabeth et à Zacharie. Mais Dieu fait grâce pas uniquement aux parents, à travers cet enfant, car comme je vous le disais, les personnages qui ont eu un destin particulier, on raconte volontiers leur naissance extraordinaire, et puis ceux qui n'ont pas eu de destin particulier, eh bien, ils s'oublient en fait dans les années. Eh bien, ce Jean a eu un destin particulier. Cousin de Jésus, il a grandi. Et il a consacré sa vie à Dieu. Il est devenu prophète, il est devenu un prophète connu, écouté, il a eu lui-même des disciples. Et puis un jour, Jésus est venu à sa rencontre, s'est adressé à lui et lui a dit « Jean, baptise-moi ». Et oui, ce petit Jean, devenu grand, vous l'avez compris, est celui que nous connaissons sous le nom de Jean-Baptiste, Jean le baptiseur. Et le rôle qu'il a occupé dans l'histoire de Jésus, mais aussi dans l'histoire du monde et l'histoire du salut en général, a été si fondamental que finalement son action de baptiser a imprégné son prénom et il est resté dans la postérité comme Jean Baptiste. Le prénom qu'on porte dit quelque chose aussi de notre identité, il fait partie de nous. Lorsqu'on vient par contre, eh bien, on a ce rôle de devoir choisir un enfant. Alors, peut-être certains d'entre nous ont une apparition qui nous a dit comment notre enfant allait sonner, mais enfin, la plupart du temps, c'est quand même le travail des parents de chercher, de choisir, d'imaginer un prénom. On peut opter pour la tradition familiale de transmettre un prénom qui existe déjà. On peut aussi choisir de s'en distancer et de choisir un prénom inédit. Et enfin, ces choix-là sont d'une certaine manière significatifs. En général, comme parents, on se renseigne un petit peu, on cherche sur l'étymologie, la signification du prénom, on se documente sur les personnes célèbres qui auraient porté ce prénom, par souci de ne pas affubler un enfant d'une étiquette ou de de l'associer à une quelconque négativité. Cette idée que le prénom qu'on porte a un impact sur la personne qu'on est et qu'on va devenir est très très ancienne. Et on cherchait autrefois à donner un prénom qui dit quelque chose d'une bénédiction ou d'une volonté d'une vie accomplie qui soit déjà inscrite dans notre personne au travers de nos prénoms. On craint aussi un peu de porter malheur à un enfant si on lui donne un prénom qui aurait quelque chose de connoté. Dans la jeunesse, par exemple, on se souvient de la naissance de Benjamin. Benjamin, c'est le second fils de Jacob et Rachel. Et l'accouchement de Rachel se passe mal. Juste avant de mourir en couche, Rachel appelle ce nouveau-né Ben-Oni, ce qui signifie le fils de la douleur. Et immédiatement, Jacob change de prénom. Et il donne le prénom de Ben-Yamin, Benjamin, fils de la main droite, de la main qui porte chance. L'enfant ne doit pas porter jusque dans le prénom qu'il porte et qu'il portera toute sa vie le malheur qui a frappé au moment de sa naissance. Il ne doit pas être toute sa vie ce fils de la douleur. Benjamin, Jean, Dieu fait grâce. L'enfant a porté dans toute sa vie cette promesse et la reconnaissance de ses parents pour la grâce venue à sa naissance. On peut tous et toutes chercher un peu sur nos prénoms, d'où ça vient, peut-être aussi interroger nos familles, pourquoi avoir choisi ce prénom-là. Maë, si je ne me trompe pas, toi ton prénom est une version plutôt bretonne d'un prénom construit sur les racines Matit et Yahweh, qui veut dire le don de Dieu. C'est juste, vous savez. En tout cas, c'est les mêmes racines qui ont aussi donné Maë, Mathias, toute cette famille de prénoms. Quoi de plus beau que de porter don de Dieu comme prénom? Un don pour ses parents, un don pour la famille, et finalement, on porte aussi le fait d'être un don pour le monde. Parce que le monde ne serait pas le même si l'un d'entre nous n'était pas né. Nous l'affirmons dans le baptême, nous l'affirmons chaque jour, par notre nom, Dieu nous connaît. Il sait qui nous sommes. Et c'est ce que nous rappelle le prophète Ésaïe. Pour Dieu, nous ne sommes pas juste des gens. Pour Dieu, nous sommes Jacques, nous sommes André, nous sommes Antoinette, nous sommes Suzanne. Et Dieu a gravé nos noms sur la paume de sa main. Et je trouve cette image extraordinaire. Dieu a gravé notre nom sur la paume de sa main. La paume de la main, c'est un des endroits les plus sensibles du corps humain. C'est une partie qui peut être protégée lorsque l'on referme les doigts, ou qui peut porter lorsqu'on les ouvre en les dirigeant vers le ciel. Avec les paumes de la main, on peut former une sorte de petit nid pour recueillir. Et puis, c'est aussi par là que passe le contact lorsqu'on serre la main à quelqu'un. Dans la paume de la main, on y inscrit parfois quelque chose qu'on ne veut pas oublier, ou un mode vocabulaire allemand, mais ça, on va voir. On l'écrit là, pourquoi? Peut-être un peu parce que c'est à nous, et puis que si on ne veut pas que ça se voit, on peut refermer, mais aussi parce que c'est un endroit sur lequel nos yeux tombent un nombre incalculable de fois dans la journée. Essayez une fois d'observer combien de fois vous voyez l'intérieur de la paume de votre main dans une journée. Vous serez surpris. C'est un endroit qui est un endroit sûr, un endroit préservé, mais aussi un endroit ouvert, un endroit qui va vers l'autre. La paume de la main est aussi traversée de sillons, que certains appellent les lignes de la vie. Dans la paume de sa main, Dieu a gravé chacun de nos noms. Et à tout jamais, il en garde la trace ici.